Il est 12h30 sur France Culture. Les informations, Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Iran réintégré dans les négociations sur la Syrie. Téhéran va participer demain soir au pourparlers de Vienne. Analyse avec Eric Biegala dans un instant. La crise des migrants. L'Autriche annonce qu'elle va édifier une barrière le long de sa frontière avec la Slovénie. Il s'agit d'assurer une entrée ordonnée dans le pays, assure la ministre de l'Intérieur, correspondance d'Arnaud Derrins. La campagne pour la primaire républicaine aux États-Unis, avec un troisième débat ce soir, le milliardaire Donald Trump est concurrencé par un fidèle de l'église adventiste du 7e jour, Ben Carson. Neurochirurgien de 64 ans, suivi avec Nabila Hamel. En France, Manuel Valls esquisse une réponse sur le front républicain. Il est hors de question, déclare-t-il, de laisser le Front National gagner une région. Ce qu'il affirmait en Seine-Saint-Denis hier, commentaire de cette déclaration avec Frédéric Saïs. L'Église catholique célèbre les 50 ans de Nostra Aetate, notre époque, déclaration historique qui a jeté les bases du dialogue avec les Juifs et toutes les autres religions. Compte rendu de Marie Duhamel à Rome, l'invité de la séquence interview, Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France. Dans la dernière partie, Caroline.
On pourrait appeler notre dernière partie le journaliste, le scientifique et nous. Notre invité sera Stéphane Foucard, qui est journaliste scientifique au journal Le Monde et qui publie L'avenir du climat, enquête sur les climato-sceptiques, qui est un livre en fait qu'il avait initialement publié en 2010 et qui réédite bien sûr à l'occasion de la COP21.
Alors que les différents fronts syriens n'évoluent guère, les réunions diplomatiques, elles, sur la Syrie se multiplient avec une nouveauté ce matin, donc l'intégration de l'Iran dans les négociations. Pour la première fois, le département d'État annonçait que Téhéran pourrait prendre part aux pourparlers. Puis très rapidement, on a appris que l'information était confirmée et que le ministre iranien des Affaires étrangères serait bien présent à Vienne demain soir. À l'instant d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, déclare que la France est favorable à l'invitation de l'Iran qui va donc se mêler dans ce jeu diplomatique. Donc situation figée sur le terrain avec des offensives américaines face à Daesh et russes face aux rebelles qui semblent bien marquer le pas. Mais sur le plan diplomatique, il y aurait donc du nouveau. La question est de savoir, Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Si un accord pouvait être trouvé, un accord politique, diplomatique sur une transition en Syrie, quels seraient véritablement les moyens de la communauté internationale pour le faire appliquer?
Oui, alors effectivement, actuellement, au moment où on parle, on constate une certaine activité diplomatique autour de la Syrie. Réunion à Vienne de chefs de diplomatie, il y en a eu une la semaine dernière, la prochaine demain soir. Une autre à Paris, c'était hier, avec pour invité au dîner des diplomates, des envoyés spéciaux, certains ministres des Affaires étrangères également. En fait, quelles que soient les discussions diplomatiques qui pourraient débuter ces prochains jours, la mise en œuvre d'un quelconque accord visant une sortie de crise buterait inévitablement sur les réalités de terrain de cette guerre syrienne où s'affrontent plusieurs factions avec chacune ses sponsors étrangers. Situation tellement biscornue qu'on pourrait presque parler de deux guerres en Syrie. Il y a d'abord la guerre contre l'État islamique, ceux qui affrontent en Syrie les djihadistes du califat autoproclamés, ce sont d'abord les avions de la coalition emmenés par les Américains, et sur le terrain, essentiellement les Kurdes de l'IPG, parfois quelques factions rebelles, et encore plus rarement les forces du régime de Bachar. En guise de soutien, l'État islamique semble dorénavant pouvoir compter sur la Turquie, qui n'a pas hésité à tirer sur les Kurdes syriens la semaine dernière, parce que ces derniers avaient fait mine d'avancer contre Daesh. Et puis il y a l'autre guerre, celle qui oppose depuis 2011, d'un côté le régime de Bachar al-Assad, appuyé par les avions russes, par les combattants du Hezbollah libanais, et par certaines unité des gardiens de la révolution iranienne, et de l'autre côté, une foultitude de factions rebelles, depuis les laïcs de l'armée syrienne libre jusqu'aux djihadistes de Jabhat al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Elles sont appuyées, sponsorisées, armées, ces factions, qui par la CIA américaine, qui par les Saoudiens, par le Qatar ou encore par la Turquie. Bref, ça fait beaucoup, beaucoup de monde à inviter à cette table de négociation. Et il faudrait encore que les principaux intéressés, les parties au conflit, acceptent effectivement, eux aussi, de s'y asseoir à cette table. Pour l'État islamique, par exemple, il n'en est évidemment pas question. Quant à Bachar al-Assad, son bureau a publié hier un communiqué mettant clairement les choses au point. Aucune initiative politique ou diplomatique ne sera considérée tant que le terrorisme ne sera pas éradiqué par terroriste. Dans la langue de Bachar al-Assad, il faut évidemment comprendre la totalité des factions rebelles.
Eric Biegala, merci.
La crise des migrants, malgré un discours officiel d'ouverture, plusieurs pays européens sont tentés de fermer leurs frontières.
Et oui, c'est le cas notamment de l'Autriche ce matin, malgré donc ce discours officiel. La Hongrie avait fermé il y a une quinzaine de jours une deuxième donc ses frontières avec la Croatie, désormais barrée d'une clôture de barbelés, cette frontière, laquelle avait entraîné d'ailleurs un déplacement vers la Slovénie de l'itinéraire des migrants qui remontent de la Grèce vers le nord de l'Europe. Cette fois, c'est donc l'Autriche qui annonce qu'elle va édifier une barrière le long de sa frontière avec la Slovénie. On va être en ligne avec Jean-Arnaud Derrins dans un instant, qui se trouve précisément à cette frontière. Je vous propose d'entendre d'abord ce que disait ce matin le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il s'exprimait sur cette question des migrants devant le Conseil économique et social à Paris.
Ceux qui viennent chez nous méritent le respect. Ceux qui partent ne le font pas par plaisir. Ceux qui partent, en règle générale, ne sont pas les plus paresseux. Ceux qui partent pour vivre mieux et pour permettre à leurs familles et à leurs enfants de vivre mieux, en règle générale, sont portés par de très impressionnants paquets d'énergie, de talent et de savoir-faire. Et donc, il est de notre devoir d'intégrer ceux qui viennent dans nos sociétés. C'est l'idée de l'homme que je me fais et c'est une certaine idée de l'Europe que je ne voudrais pas que nous laissions détruire par les forces populistes d'extrême droite et les forces de rejet et les forces qui n'aiment pas l'autre. Si on n'aime pas l'autre qui vient d'ailleurs, ça sera un jour de nous aimer entre nous. Il n'y a pas le monde et l'Europe d'une part. Il y a l'Europe dans le monde.
Voilà, Jean-Claude Juncker, donc ce matin à Paris devant le Conseil économique et social. On est en ligne maintenant avec Jean-Arnaud Derrins. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez donc à cette frontière entre l'Autriche et la Slovénie. Donc la ministre de l'Intérieur assure qu'il s'agit d'assurer une entrée ordonnée, contrôlée dans le pays et pas de fermer la frontière. Et elle souligne qu'il y a eu des groupes de migrants qui s'étaient montrés plus impatients, agressifs, émotifs, ce qui explique donc cette mesure. Quelle est la situation sur place ?
Alors écoutez, sur place, il y a à peu près peut-être en tout 2 à 3 000 personnes qui attendent au poste frontière de Šentilj. Ils arrivent régulièrement depuis la frontière entre la Croatie et la Slovénie. On attend d'une minute à l'autre un train, qui devrait amener à peu près 1200 personnes et un peu plus tard à nouveau 20 autobus, c'est-à-dire encore un millier de personnes. Je viens de discuter avec des réfugiés syriens. Certains sont arrivés hier soir, mais d'autres sont arrivés il y a 48 heures. Maintenant, les gens attendent en très bon ordre, pour le coup, derrière des barrages, dans le No Man's Land entre les deux pays, ils attendent que des autobus les amènent jusqu'au premier camp autrichien de l'autre côté de la frontière.
Comment est-ce qu'on peut comprendre cette décision autrichienne ?
Écoutez, je crois qu'elle est un petit peu surprenante. Il faut tout de même rappeler une chose, c'est que et la Slovénie et l'Autriche sont non seulement membres de l'Union européenne, mais également de l'espace Schengen. Donc un point qu'il faut rappeler. Pour le reste, ce que dit l'Autriche, c'est qu'il y aurait des passages incontrôlés. Moi, je n'en ai pas constaté. Et les informations que j'ai, c'est que tout le monde passe par ce poste de Šentilj-Spielfeld, côté slovène, Spielfeld côté autrichien, et que les passages s'effectuent plutôt dans le bon ordre. Le principal problème, c'est que les gens doivent attendre très longtemps les autobus. Il n'y a pas assez de bus pour les emmener ensuite vers leur destination en Autriche.
Jean-Arnaud Derrins, merci beaucoup donc d'avoir été en ligne avec nous. On salue notre invité, Daniel Keller. Bonjour.
Bonjour.
Grand maître du Grand Orient de France. En Allemagne, il y a aussi cette déclaration du ministre de l'Intérieur qui dit que le nombre élevé d'Afghans demandant le statut de réfugié en Allemagne est inacceptable. Il appelle les jeunes à rester en Afghanistan pour reconstruire leur pays. On a quand même le sentiment qu'au bout d'un moment, les Européens, même ceux qui étaient les plus favorables à l'accueil, commencent un peu à freiner. Comment on peut prendre position ? Comment le Grand Orient a pris position sur la question ?
Le Grand Orient, en tout cas les francs-maçons du Grand Orient, ne peuvent qu'être préoccupés de constater qu'aujourd'hui, ce qui semble constituer, je dirais, la stratégie de l'Union européenne, c'est de transformer l'Europe en une forteresse. Donc c'est évidemment un choix très court-termiste, une réaction de peur et de rejet, mais qui ne réfléchit absolument pas sur le long terme et sur la manière dont on doit comprendre effectivement ces flux de réfugiés qui ne vont pas s'arrêter, parce que l'état du monde est ce qu'il est, et ce qui fait cruellement défaut, ou en tout cas ce qui a beaucoup de mal à accoucher aujourd'hui, c'est quelle politique européenne pour accueillir et intégrer ces populations qui fuient leur pays. Elles ne quittent pas leur pays par plaisir. Ce n'est pas un déplacement touristique qu'elles effectuent. Ce sont des flux migratoires parce que ces personnes quittent des pays en guerre dans lesquels ils sont menacés, dans lesquels ils sont persécutés.
Daniel Keller, on parlera tout à l'heure, quand on reviendra à la politique française, de l'impact éventuellement de ce sujet sur les élections qui ont lieu bientôt en France, dans un peu plus d'un mois, dans 6 semaines, ces élections régionales. Daniel Keller, donc vous restez avec nous pour la suite de cette édition.
La campagne pour la primaire républicaine aux États-Unis, nouveau temps fort ce soir avec un troisième débat de la saison.
Oui, les 10 candidats qui sont en tête des sondages vont se retrouver à l'Université du Colorado pour ce débat de 2 heures consacré à l'économie, retransmis sur la chaîne financière CNBC. Les deux hommes qui émergent de cette campagne, donc du côté des Républicains, ce sont des candidats atypiques. Il y a d'abord, on le connaît bien, le milliardaire Donald Trump. Et puis, il est concurrencé de plus en plus, Trump, par un fidèle de l'église adventiste du 7e jour qui s'appelle Ben Carson, neurochirurgien, 64 ans, il est à la retraite. C'est le seul candidat noir et il a pris hier la tête d'un sondage national, donc chez les Républicains, Nabila Hamel.
Oui, l'étude réalisée par le New York Times et CBS fait ressortir un avantage de 4 points pour le neurochirurgien américain à 26% devant le trublion de la campagne républicaine, le milliardaire Donald Trump, qui partait pourtant comme une flèche. Et à propos, c'est à coups de flèche tirés sur leurs adversaires, démocrates ou même de leur propre camp, que ces deux candidats sortent du lot aujourd'hui. Tiendront-ils jusqu'à la fin de la campagne, car elle est encore longue, nul ne le sait. Mais aujourd'hui, leur succès vient de leur distance avec l'establishment. Donald Trump n'a cure du parti républicain, mais drague son électorat. C'est ce que fait avec plus de succès aujourd'hui Ben Carson, lui aussi électron libre et très courtisé par les ultra-conservateurs du Tea Party. L'homme s'est mis en tête de faire de la politique il y a 2 ans. Il se livre régulièrement à des déclarations à l'emporte-pièce sur des sujets comme l'avortement. Il y est totalement opposé, même en cas de viol ou d'inceste. Et cet afro-américain n'a pas hésité d'ailleurs à comparer les femmes qui avortent à des esclavagistes. Ben Carson s'affiche également contre l'homosexualité et est un fervent défenseur du port d'armes. Il égratigne également l'Obamacare, la politique de protection sociale actuelle de la présidence. Ce sont ses thèmes favoris. Alors, face à ces deux personnalités dominantes, les candidats plus traditionnels comme Jeb Bush ou le sénateur d'origine cubaine Marco Rubio tenteront une nouvelle fois de percer lors du débat de ce soir qui est, comme vous le disiez, économique surtout.
Voilà. Et écho demain donc dans nos éditions de la matinée. Merci Nabila Hamel.
France Culture 12h42, suite du journal avec la politique française. Avant-hier soir, le bureau politique du Parti Socialiste affirmait ne pas vouloir se prononcer avant le premier tour des régionales sur la nécessité de constituer un front républicain pour le second tour. Hier, le Premier ministre a toutefois pris position sur la question.
Oui, Manuel Valls, c'était l'invité exceptionnel du Bondy Blog et il a notamment eu cette déclaration qui peut être interprétée de façon différente. On va le voir dans un instant avec Frédéric Seiss. Il a déclaré donc qu'il était hors de question de laisser le Front National gagner une région. On réécoute cette déclaration d'abord.
Chacun doit prendre conscience, dans les deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, plus la gauche est haute, plus elle est forte au premier tour, plus les chances de l'emporter au deuxième tour sont là pour empêcher, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la victoire du Front National. Ça, c'est la première condition. Et il faut mener campagne. Et moi, je m'engagerai dans la campagne. Deuxièmement, je l'ai dit aussi clairement, il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Donc tout devra être fait pour l'empêcher. Tout devra être fait pour l'empêcher. Donc je vous donne rendez-vous le soir du premier tour.
Manuel Valls, hier en Seine-Saint-Denis, même tonalité ce matin du premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui n'a pas exclu donc un front républicain au second tour pour faire barrage, dit-il, à l'extrême droite, même si sa priorité, ça reste de gagner le premier tour. Frédéric Seiss, comment est-ce que le Parti Socialiste entend gérer cette délicate situation jusqu'à ce premier tour des régionales?
Eh bien, en procrastinant, comme on vient de l'entendre, en repoussant au maximum la prise de décision, pas avant ce fameux soir du premier tour, le 6 décembre. Avant cela, on est dans le registre de l'implicite, voire du subliminal. Il faut tout faire pour éviter que le FN remporte des régions, explique en cœur le Premier ministre et le Premier secrétaire. Concrètement, si l'on parle du Nord et de la région PACA, tout faire, ça veut dire quoi? 3 scénarios peuvent se présenter. D'abord, le PS arrive 3e, mais le total des voix de gauche, si l'on additionne les Verts et le Parti communiste, permet de l'emporter au deuxième tour. Vous savez que les listes peuvent fusionner si elles obtiennent au moins 5% au premier. Dans ce cas, de nombreux ténors du PS penche pour le maintien, encore faudrait-il que les reports de voix des Verts, des écologistes vers le PS soient bons au deuxième tour. Deuxième cas, le PS arrive 3e, mais le total de la gauche est faible. Se maintenir, c'est risquer de permettre la victoire du FN. Dans ce cas, Manuel Valls, même s'il ne le dit qu'à mot couvert, on l'a entendu, penche pour le retrait, une position qui ne fait pas l'unanimité dans son parti, y compris parmi ses proches. Le sénateur Luc Carvounas plaide, lui, pour un maintien, pour ne pas laisser pendant 6 ans une assemblée régionale qui se partagerait entre la droite et le FN. Troisième cas, le PS arrive second devant la liste des Républicains. Dans cette hypothèse, c'est à la droite que le problème se pose, puisque c'est le 3e arrivé qui est censé se retirer au nom du Front Républicain. Alors, il y a aussi un 4e cas, celui que le PS soit en tête dans ces deux régions, mais cette hypothèse-là, aucun hiérarque du PS n'ose l'évoquer, même sur le ton de la plaisanterie. Alors, quelle stratégie d'ici là? Le gouvernement a choisi de nationaliser au maximum cette élection régionale. Manuel Valls a prévu pour l'instant 8 déplacements de campagne, principalement dans la dernière ligne droite, le 2 décembre près de Lyon, le 3 à Paris, le 4 à Marseille. Rien de calé jusqu'ici en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. L'argumentaire, lui, est déjà rodé. Nous serons presque un an après les attentats. Comment accepter que la France soit prise en étau par le FN au nord et au sud, explique l'entourage du Premier ministre. Une campagne donc fondée en quelque sorte sur la morale, dont le PS espère qu'elle convaincra davantage les abstentionnistes que les résultats du gouvernement.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Daniel Keller, vous avez publié une interview dans le JDD, le dernier JDD, La République est en danger. La gauche doit-elle se désister si elle arrive troisième?
Je n'ai pas, en tant que grand maître du Grand Orient, à m'exprimer sur ce que tel ou tel parti doit faire. Ça n'est pas la fonction qui est la mienne. Simplement, à écouter ce qui vient d'être rappelé, l'exposé ressemblait un peu à un quiz avec les différentes solutions que vous exprimiez. Cela me conduit simplement à dire une chose simple, c'est que la politique, c'est une subtile dialectique. C'est-à-dire que c'est d'abord un rapport de force. Bon, c'est la conquête du pouvoir, c'est constituer des alliances pour effectivement occuper le pouvoir, mais c'est aussi une question de conviction.
Mais alors conviction, encore une fois, la République est en danger. Vous
mais
dites,
je pense qu'aujourd'hui, parce que je crois qu'aujourd'hui nous sommes à un moment où les Républicains ont rendez-vous avec leurs convictions. Voilà, c'est-à-dire que le Front National a constitué une menace, on va dire virtuelle, pendant de nombreuses décennies. Mais aujourd'hui, il est à la porte, effectivement, de l'exercice du pouvoir dans des grandes régions, et peut-être au-delà, je suis pas devin, et je crois qu'effectivement, les Républicains de tous bords, des deux rives, comme on dit, doivent prendre conscience de ce que cela représente, et il y a des situations dans l'histoire où il faut savoir dire non. Alors on va pas convoquer les grands exemples de l'histoire, mais on peut penser au général de Gaulle, on peut penser à Pierre Mendès France. Je crois que l'homme politique, dans des situations extrêmes, comme celles que l'on rencontre, que l'on peut rencontrer aujourd'hui, a la chance, s'il sait la saisir, de se grandir.
Vous dites, Daniel Keller, que tous les Républicains de tous bords doivent s'unir. Ça veut dire, dans votre esprit, que le Front National n'est pas républicain aujourd'hui?
Je crois que le Front National est un parti dans la République. Il bénéficie des mêmes avantages que les autres. Il a les mêmes obligations que les autres. Mais il est porteur de valeurs, d'une culture, d'une histoire qui, effectivement, quand on analyse de près, est en opposition flagrante avec ce qu'a été le combat pour la République. Voilà. Donc, il faut le savoir. Je crois que ça ne sert à rien de se voiler la face. Et il vaut mieux dire les choses clairement pour espérer être bien compris.
Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans les semaines qui viennent, Daniel Keller?
En tant que représentant du Grand Orient de France, je suis en même temps un militant associatif. Parce que le Grand Orient de France, c'est une association de loi de 1901, ça n'est pas que cela. Mais c'est aussi cela. Donc, j'ai rencontré hier soir un ensemble de membres du Grand Orient de France, de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, parce que l'appel est à la mobilisation, c'est-à-dire que nous sommes suffisamment présents dans le tissu associatif, nous sommes suffisamment au contact de toutes celles et de tous ceux qui aujourd'hui ont envie de renverser la table pour effectivement construire ce dialogue raisonnable auquel je crois. Il ne sert à rien, encore une fois.
Ça passe par quoi? Par des réunions? Vous allez
mobiliser
les
associations? Oui, ça passe par des réunions publiques, ça passe par l'animation de réunions dans des comités de quartier, dans les réseaux associatifs divers. Ça suppose aussi de savoir construire des éléments de langage pour effectivement répondre à tous ceux qui, pour des raisons qui peuvent être tout à fait compréhensibles, ont envie de voter Front National, mais qu'en même temps, faire valoir que on n'est pas obligé de faire le détour par la case du pire.
Il est hors de question, disait Manuel Valls, de laisser le Front National gagner une région. Ce matin, Marion Maréchal Le Pen, tête de liste donc en PACA, se déclare très choquée par ses propos. Effectivement, sur le plan démocratique, on veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'on empêcherait quelqu'un de gagner une élection? Comment on répond à ce genre d'argument?
Je crois que la mobilisation, le sonné par le Premier ministre, C'est le bon sens. Bon, après, la façon dont il entend opérer, ça, vous lui poserez la question.
Merci beaucoup, en tout cas, vous restez avec nous. Nous poursuivons cette édition avec un tour du côté du Parlement européen qui est en train de se prononcer sur la proposition de la Commission d'utilisation des OGM dans la nourriture humaine et animale. Il y a une commission, un comité environnemental du Parlement qui a voté contre cette proposition hier. Agnès Vogel, bonjour.
Bonjour.
Il est très probable que le Parlement va voter contre également cette proposition de la Commission sur les OGM.
Oui, effectivement, Antoine. Alors, contrairement à la nouvelle législation sur la culture d'OGM que les eurodéputés ont adoptée il y a un an et qui vient d'entrer en vigueur, cette fois, tous les groupes politiques ont appelé à voter contre. C'est pourtant le même dispositif qui est proposé aux États, totalement divisé sur cette question. Un système à la carte qui permet à chacun d'autoriser ou d'interdire les organismes génétiquement modifiés. 19 pays se sont prononcés pour l'interdiction de la culture, dont la France. Sauf que là, il s'agit de vendre, d'utiliser et d'importer les aliments qui en contiennent. Pour l'instant, c'est surtout la nourriture pour animaux qui est concernée. Les produits destinés à l'homme sont soumis à une obligation d'étiquetage. Or, pour l'instant, les consommateurs européens ne les achètent pas. Alors, vous vous en doutez, les députés européens ne sont pas tous contre les OGM, mais ils considèrent que ce système ne peut pas fonctionner pour les aliments car il va à l'encontre du principe de libre circulation. Il faudrait rétablir les contrôles aux frontières, non pas pour les migrants entre l'Autriche et la Slovénie, mais sur les marchandises, par exemple dans les poids lourds entre la France et l'Espagne, qui non seulement en cultive, mais va encore plus les importer et les vendre. Flou juridique, risque de condamnation par les tribunaux, y compris de l'OMC. Le Parlement européen dénonce les risques d'une renationalisation et demande à la Commission de prendre ses responsabilités. Les écologistes souhaitent que Jean-Claude Juncker respecte sa promesse d'une remise à plat, l'espère y compris pour la procédure d'autorisation des OGM. Je vous rappelle que 58 ont déjà obtenu le feu vert, 58 autres sont en attente. Mais ce matin, la Commission a annoncé qu'elle ne retirerait pas son texte. Il va donc aller devant le Conseil, qui risque bien de le rejeter à son tour, puisque les États sont eux aussi opposés à ce système.
Agnès Vogel à Strasbourg, merci beaucoup.
L'Église catholique a célébré ce matin, avec une audience interreligieuse, les 50 ans de Nostra Aetate, une déclaration historique qui a jeté les bases, après des siècles d'anti-judaïsme, du dialogue avec les Juifs et toutes les autres religions.
Et oui, en présence de milliers de fidèles, des représentants de ces autres religions, aussi qui participait à cette audience hebdomadaire du pape François sur la place Saint-Pierre à Rome, que vous avez suivi pour nous. Marie Duhamel, bonjour.
Bonjour.
Alors le pape est revenu évidemment sur l'actualité de cette encyclique historique Nostra Aetate.
Et oui, tout à fait. Place Saint-Pierre, le pape vient de rendre hommage à ce décret adopté à plus de 2000 voix pour et moins de 100 contre. L'Église manifestait alors il y a 50 ans ouvertement son désir d'entrer en dialogue avec les autres religions, reconnaissant l'interdépendance des peuples, la recherche commune aux croyants de donner un sens à la vie, à la mort, cheminant vers Dieu ou l'absolu. Un texte qui a permis, a dit le pape ce matin, de transformer les rapports entre juifs et chrétiens, de l'indifférence et l'opposition à la collaboration et la bienveillance, d'étrangers et ennemis à frères. Connaissance, respect, estime réciproque, le pape affirme clairement que ce document, toujours d'actualité, vaut aussi pour les rapports avec les musulmans, soulignant l'importance de la liberté religieuse, de conscience, d'expression. François a mis en garde contre le climat actuel de suspicion vis-à-vis des religions. Aucune d'entre elles n'est prémunie de dérives fondamentalistes. Il existe des terroristes qui agissent, disent-ils, au nom de Dieu. Face à cet état de fait, le pape lance en effet un appel aux croyants de toutes les confessions. Le monde nous regarde et nous exhorte à travailler ensemble. La religion est porteuse d'espérance. Le dialogue conduit à l'amitié, puis à la collaboration. Le pape invite ainsi les croyants du monde entier à prier ensemble, chacun selon sa propre tradition, puis à agir à l'unisson pour suivre la volonté de Dieu, lutter pour la paix contre la faim et la misère.
Marie Duhamel à Rome, merci beaucoup. Daniel Keller, un dernier mot. Est-ce que ce pape François ne serait pas quand même franc-maçon compatible, au bout du compte ?
Écoutez, si le pape François exprimait un jour le souhait de rejoindre la franc-maçonnerie, on l'accueillerait avec tout l'esprit de fraternité qui nous caractérise. Mais je rappelle quand même que la franc-maçonnerie a été excommuniée très tôt, d'ailleurs, dès 1738. Hein, c'est la bulle In Eminenti du pape Clément XII. Alors que la maçonnerie n'avait que 10 ans d'existence en France, et que cette excommunication, elle continue de perdurer, la doctrine de la congrégation de la foi.
Ça n'avance pas alors sur ce point.
L'a bien rappelé, et d'ailleurs, quand un prêtre devient franc-maçon, il doit savoir qu'il le fait à ses risques et périls, parce qu'il peut être menacé, comme cela s'est déjà produit, d'être mis en dehors de l'Église pour laquelle il travaille. Voilà.
Non, vous restez sur vos positions. Vous attendez mais éventuellement la levée de cette excommunication. C'est ça que vous demandez.
Nous n'attendons rien parce que la franc-maçonnerie n'est pas une religion et nous ne sommes pas en compétition avec les églises. Donc la position de l'Église catholique est la sienne. Ça ne nous empêche pas de nous développer et de bien vivre.
Daniel Keller, merci beaucoup.
Merci à vous.
Grand maître du Grand Orient de France, merci d'avoir accepté notre invitation. La météo, de la pluie sur le sud-est, le Gard est en vigilance orange en raison des orages. Maussad sur le reste du pays, des températures qui sont en baisse de 10 à 19 degrés cet après-midi. Édition qui s'achève, réalisée avec Alexandre Motto. Le prochain journal est à 18h avec Catherine Dutu.